Welcome in Cigani 2023, conférence de William Acker, où sont les gens du voyage, salle des fêtes de Seissan. Waking up this morning and I say, yesterday was just another day. Looking at my life and I realize everything I had was just a waste. Waking up this morning and I say, yesterday was just another day. Looking at my life and I realize everything I had was just a waste. Τσοπανάκος μωρέ παιδιά, τσοπανάκος ήμουνα. Άντε τσοπανάκος ήμουνα, πρόβατάκια φύλαγα. Everybody's a superstar, we're the kids of the diaspora. Everybody's a superstar, we're the kids of the diaspora. Première partie, où sont les gens du voyage? Une cartographie des aires d'accueil et des risques sanitaires. C'était un mois d'août brûlant. L'asphalte collait aux souliers dans ce non-lieu situé à l'arrière d'une usine ou peut-être d'un entrepôt qui ne servait plus depuis longtemps. Sur le goudron noir dansaient des flammes sans feu. Nous cramions. Le terrain, grêlé d'innombrables nids de poules, ressemblait à un champ de bataille. Les mauvaises herbes poussaient avec nous depuis les interstices. Des déchets, papiers et plastiques, parsemaient le parking, comme nous parsemions les espaces laissés vides. La grande tente faisait ici une halte. Sa caravane trônait, seule, au centre du No Man's Land. Dans le pays, comme partout, s'organisait une chasse aux nous. Ceux qui ne doivent pas vivre en dehors de leurs espaces réservés. Alors, faute de mieux, le parking brûlant et abandonné servait de repli. La grande tente servit une grenadine fraîche et un café. Chez elle, il y avait toujours du café. Son hospitalité détonnait dans ce coin oublié. Elle souriait, les yeux plissés et le front dégoulinant. Sans comprendre le parking, il est impossible d'entendre les discours. Ainsi, lorsque les plus jeunes de la famille expriment quelques fiertés excessives, la grande tante rappelle le passé. Celui de la pauvreté, de l'errance et de la mise au ban. Celui de la guerre et de l'après-guerre. Ce passé à ne pas oublier pour apprécier le présent. Du passé, elle tirait cette aptitude à accepter le parking comme repli temporaire. Perdre une bataille n'est pas une honte. Elle avait un passé. Nous n'avions pas de mémoire. À peine savait-on pour ses doigts cassés, la faim et les mauvais traitements subis par l'arrière-grand-mère dans les camps pour nomades. Vaguement savait-on pour les morts. Il faut une mémoire pour comprendre le parking. Si le parking existe, c'est parce que la loi non seulement le permet, mais aussi l'organise. Notre place est désignée, choisie et séparée. Nos places sont celles qui restent. Derrière le cadre légal imposé aux gens du voyage, il est possible de saisir l'existence d'une gestion de l'indésirable au quotidien. Thank you.
Merci d'être présent aujourd'hui. C'est pas toujours que j'ai des salles remplies, donc je suis content de vous avoir. Ouais, comme Nzigani est avant tout un festival de musique, donc c'est vrai que je suppose qu'on n'aborde pas toujours ces sujets-là dans ce cadre-là. Donc je vous remercie aussi de l'effort que vous faites de ne pas venir juste pour l'amusement, mais aussi pour venir découvrir d'autres réalités. On va aborder un sujet qui n'est pas simple, qui est très technique, et je vais essayer de rendre beaucoup plus accessible, qui est celui de l'accueil des gens du voyage, et notamment des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Vous avez certainement beaucoup d'expériences, d'a priori, de négatifs, pour beaucoup, positifs peut-être. Je vous inviterai à me partager en fin de présentation. D'ores et déjà, je vous invite aussi à ne pas avoir peur de poser vos questions, même si elles sont fâcheuses, il n'y a pas de sujet fâcheux. En la matière, vous savez, en matière de voyageurs, on parle régulièrement de problèmes, donc ne faut pas hésiter à me poser ces problèmes, et puis on essaiera de dialoguer ensemble pour comprendre un peu ces phénomènes. Tout d'abord, je vais me présenter très rapidement. Je suis juriste. Je viens d'une famille, moi aussi, de voyageurs. Donc, j'ai passé les 18 premières années de ma vie, on va dire, dans une caravane. Et puis j'ai fait des études dans le sud de la France. Et je suis devenu juriste. Et aujourd'hui, je suis délégué général d'une association qui défend les droits et qui conseille les familles de voyageurs. Donc, une association de voyageurs qui s'appelle l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Et d'ailleurs, on a un petit stand sur le village. Alors, avant de commencer, peut-être ce qui serait intéressant aussi, c'est de vous parler des lieux dans lesquels les voyageurs vivent aujourd'hui. On va parler principalement des aires d'accueil, donc vous en avez une qui est juste derrière, voilà, qui est dans le 44, celle-ci. Les aires d'accueil, donc en fait, ce sont des parkings, ni plus ni moins, avec des petites maisons individuelles, comme vous le voyez sur la carte. Petites maisons individuelles où on a les sanitaires, peut-être des éléments de cuisine, ce genre de choses. Et donc ces parkings donc, sont réservés aux familles dites gens du voyage qui viennent y stationner de manière temporaire normalement, puisque c'est prévu pour maximum 3 mois. L'accès à ces lieux est donc obligatoire pour les voyageurs. Il est payant, puisque une aire d'accueil, c'est payant. On paye les fluides, l'eau, l'électricité. On paye également aussi un forfait d'emplacement. Ces lieux ont la particularité d'être souvent à l'écart des villes. Là, vous le voyez, hein, ça ne fait pas exception, mais pas dans une zone urbaine. Et ils ont aussi la particularité d'être gardés, puisque, en tout cas d'être gérés. On verra après que parfois c'est plus du gardiennage que de la gestion, avec des sociétés privées ou des personnes publiques qui viennent sur l'aire d'accueil pour administrer cette aire d'accueil, faire appliquer aussi un règlement intérieur, puisque chaque aire d'accueil a un règlement intérieur que les occupants doivent respecter, et puis éventuellement administrer des sanctions s'il y a des débordements, par exemple. Donc ça, ces espaces d'accueil, en fait, ils sont obligatoires pour toutes les communes de plus de 5000 habitants, et ça depuis la loi Besson du 5 juillet 2000. En théorie, puisqu'en pratique, seuls 26 départements en France sont aux normes, respectent effectivement cette loi. Donc l'immense majorité des départements sont encore très en retard dans l'application de cette loi. Et les aires d'accueil, aujourd'hui, ça représente théoriquement 25 000 places. En pratique, entre 15 et 20 000, parce qu'il y a un grand nombre de places qui sont fermées. Et puis, un autre phénomène, c'est que beaucoup de personnes qui vivent sur ces aires d'accueil finissent par s'y sédentariser, faute de solutions alternatives pour habiter le territoire. Et donc on a un problème arithmétique qui se pose, puisqu'on a entre 200 et 300 000 voyageurs en France, et on a 15 000 places d'accueil concrètement. Donc vous voyez bien que de toute façon, l'installation illicite qui est souvent décriée dans les médias, pour une famille de voyageurs, c'est quasiment incontournable, impossible d'éviter aujourd'hui l'installation illicite, puisque en plus, on le verra tout à l'heure, l'accès à la propriété privée subit de nombreuses barrières en droit de l'urbanisme et de l'environnement que je vous décris tout à l'heure. Les deuxièmes types d'habitat, on rentre dans l'habitat social, donc c'est pour les familles les plus précaires. C'est ce qu'on appelle l'habitat adapté, ce sont des maisons, des petites maisons, avec à côté un parking pour garer sa caravane. Et vous voyez la particularité ici sur cette carte de l'habitat adapté, on est à Rosny-sous-Bois dans le 93, on a en fait, on crée des quartiers gitans, c'est-à-dire une succession de ces petites maisons où il n'y a que des gens du voyage qui vivent dans cette zone-là, des gens du voyage dits sédentarisés. Là aussi, on pourra revenir sur cette notion, gens du voyage sédentarisés, c'est un peu étrange. Et donc, c'est la suite en fait, de nombreux quartiers qui ont été expérimentés dans les années 60-70, qui étaient les cités gitanes, les hameaux de Zigane, tous ces premiers quartiers où on a rassemblé en fait, toute la présence dite gitane ou zigane dans un même quartier. Et ça, évidemment, c'est réservé sous conditions de ressources. Donc, ce sont principalement des familles précaires qui accèdent à ces habitats adaptés. L'habitat adapté, hein, vous en avez par exemple pour les situations les personnes en situation de handicap aujourd'hui. Vous avez différents types d'habitats adaptés. Ils en développent également à Mayotte. Là, ils ont parlé d'en développer pour les personnes en situation irrégulière, etc. Enfin, différents types d'habitats adaptés. Et il y a le terrain familial. Alors là, on est à Nantes. Dans la prairie de Mauves, moi j'appelle ça une zone d'exclusion de Zigane parce qu'en fait, sur toute cette zone-là, vous n'avez que des voyageurs avec différents types d'équipements. Vous voyez à droite de l'écran une aire d'accueil. Ensuite, là où il y a le point en rouge, c'est un terrain familial. Et puis ensuite, il y a d'autres terrains, des terrains privés, des installations aussi informelles, illicites. Et en fait, ces terrains familiaux, ce sont aussi des dispositifs sociaux, sous réserve aussi de moyens. Qu'on met à disposition des familles. C'est, en gros, c'est une aire d'accueil à l'échelle d'une famille. Voilà. Ça, c'est les solutions publiques d'habitat des gens du voyage. Et puis ensuite, vous avez des solutions privées, c'est l'acquisition de terrain. Et tout à l'heure, je vous disais que c'est difficile d'acquérir un terrain quand on est voyageur, mais parce qu'en fait, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'acquérir un terrain où on a légalement le droit de stationner sa caravane. C'est-à-dire que, et on le verra tout à l'heure, je le détaillerai, on dit communément qu'on a le droit de stationner moins de 3 mois à une caravane, à usage d'habitation. Mais ça, en réalité, ça se confronte au droit de l'urbanisme, où dans les zones naturelles, agricoles, etc., c'est complètement interdit. Et dans les zones urbanisées, c'est-à-dire le centre-bourg, en général, les terrains étant beaucoup plus chers, et de toute façon, il est interdit formellement de stationner plus de 3 mois de sa caravane. Donc en fait, quasiment toutes les zones sont interdites en dehors des aires d'accueil. Et les voyageurs qui acquièrent des terrains peuvent s'y installer, évidemment, avec leur caravane, parfois faire des constructions plus ou moins licites, ça dépend les familles, mais généralement, ils se retrouvent toujours confrontés à des situations d'installation illicite, puisque de toute façon, les caravanes, qui sont leur habitat traditionnel, ne sont pas acceptées. Intéressé aux questions environnementales il y a quelques années et le jour du 26 septembre 2019, j'ai allumé ma télé et puis j'ai vu cette usine Seveso, donc l'usine Lubrizol à Rouen, qui prenait feu. Et le réflexe, ça a été de regarder tout de suite autour de l'usine s'il n'y avait pas une aire d'accueil. Puis ben, il y avait forcément une aire d'accueil, puisque c'est assez traditionnel ce genre d'emplacement d'avoir une aire d'accueil à proximité de sites dangereux. Et donc, on avait cette aire d'accueil de Petit-Quevilly qui était située à 400 mètres de l'incendie. Et entre les deux, il y avait une usine de lubrifiant Total qui, elle aussi, est classée à risque. Et d'autres zones Seveso tout autour. Vous voyez que la zone là que je vous montre est une zone industrielle. Où, logiquement, les personnes ne devraient pas y vivre. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a tout de suite contacté les habitants de cette aire d'accueil. Et il s'avérait que non seulement ils n'avaient pas été évacués du terrain, mais en plus, on les avait enfermés sur l'aire d'accueil parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public lorsqu'ils sortiraient leur caravane, leur camion, pour la gestion des secours sur place. Donc on les a enfermés et ils sont restés 3 jours sur cette aire d'accueil, sans local de confinement évidemment, avec pour seul confinement possible la caravane qui évidemment n'est pas étanche aux fumées. Donc ils ont été très exposés et très éprouvés, ils ont eu très peur aussi sur cette aire. Il y avait 75 personnes. Et aucun agent public n'est allé à leur rencontre au moment de l'incendie. Et le premier agent public qui vient les voir, donc ça c'est le jeudi, hein, l'incendie, c'est le dimanche pour venir réclamer le paiement des loyers. Voilà. C'est vraiment le premier agent public qu'ils croisent. Et donc à ce moment-là, on rentre en contact avec ces habitants et puis on leur propose d'écrire une tribune dans Libération pour dénoncer à la fois leurs conditions de vie à eux, leurs conditions matérielles, mais également pour dénoncer une situation globale à l'échelle française. Et donc d'autres habitants ont co-signé cette tribune, etc. Et un ami qui travaille dans une association qui s'appelle La Voix des Roms présente la tribune lors d'une réunion à la délégation interministérielle au logement qui gère les questions de gens du voyage en France. Et la réponse des hauts fonctionnaires a été de dire bien, c'est une tribune démagogique parce qu'il n'y a pas de chiffres à l'appui pour prouver ce que vous dites. Et effectivement, il n'y avait pas de chiffres. C'est-à-dire que non seulement on ne savait même pas le nombre d'aires d'accueil en France, le gouvernement ne savait même pas le nombre d'aires d'accueil effectifs en France, il ne savait pas leur localisation précise et pas de liste, et il n'avait jamais analysé les questions environnementales. Est-ce que les aires sont majoritairement polluées? Est-ce qu'effectivement elles sont à côté de zones à risque, etc., etc. Et donc à partir de ce moment-là, un peu piqué au vif, je décide de commencer à produire ces chiffres. Et je me dis, je vais les produire, mais en plus je vais les produire qu'avec des voyageurs. Sans association, sans partenaire public, et par nos propres moyens. Aussi pour démontrer que puisque les chiffres, vous ne voulez pas les produire, eh bien, il faut que ce soit nous qui les produisons nous-mêmes. Et donc pendant à peu près un an et demi, tous les jours, je vais chercher ces aires d'accueil sur des cartographies aériennes, comme vous le voyez ici, sur Google Maps, hein, tout simplement. Et je vais en répertorier comme ça 1358. Donc je commence par la Seine-Maritime, évidemment, puisque c'était là que l'incendie Limousin avait commencé. Et puis je continue département par département. Et je me rends compte que c'est très difficile de localiser les aires d'accueil parce qu'il y a des schémas départementaux d'accueil d'habitat par département qui dressent une liste des communes de plus de 5000 habitants qui ont des obligations. Mais ces schémas-là ne dressent pas toujours, même rarement, la liste exacte des aires d'accueil avec leurs adresses. Et donc, il a fallu croiser plusieurs sources pour les localiser, à la fois les schémas, les articles de presse, les marchés publics, parce que quand on crée une aire d'accueil ou qu'on demande une gestion à des privés, on émet des marchés publics, et aussi, des pétitions à tiers d'accueil, qui sont très nombreuses. À chaque fois qu'il y a un projet d'aire d'accueil, il y a une pétition de riverains qui s'y oppose pour différentes raisons. Et là aussi, ces pétitions, elles sont intéressantes parce qu'elles fournissent beaucoup d'indications géographiques, mais surtout, elles sont intéressantes dans la manière dont elles sont construites. Comment on s'oppose à une aire d'accueil et comment on s'oppose à un projet d'aire d'accueil? En tout cas, quels sont les arguments qu'on avance quand on est riverain? Et le premier argument, c'est l'argument écologique. C'est-à-dire, l'aire d'accueil, la création de cette aire, va porter atteinte à l'environnement. Si l'aire est sur une voie verte, si elle est à côté d'un parc naturel, si il y a du déboisement obligatoire, ça sera l'argument qui sera mis en avant. S'il n'y a pas cet argument-là, par exemple, si l'aire d'accueil est construite ici, hein, vous voyez, là on est à l'aire d'accueil d'Aulnay-sous-Bois, qui est entre une décharge, une usine de ciment, une usine Céveso de l'autre côté et deux autoroutes. À ce moment-là, l'aire d'accueil, les arguments qu'on va avancer, ça va être la dévaluation des biens immobiliers aux alentours. Si les gens du voyage arrivent, nos maisons vont valoir moins cher. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'arguments, vous voyez bien lesquels ils se retournent, hein, les cambriolages, la délinquance, la saleté, etc., etc. Bon. À l'issue de ce recensement, de cet inventaire, donc 1358 sites répertoriés, et à chaque fois, une fois que je les avais localisés, je les analysais dans leur environnement à partir de cette cartographie. Je regardais où est-ce que l'air se situait par rapport à la ville. Et alors là aussi, c'était assez intéressant parce que au tout début, quand je cherchais les aires d'accueil, je mettais une heure à trouver une aire d'accueil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais certaines villes sont immenses et une aire d'accueil, c'est juste un tout petit parking. Et donc, à la fin, avec l'habitude, je l'ai trouvé en une minute. Parce qu'en fait, il suffit de regarder les frontières communales et généralement, vous trouvez l'aire d'accueil. Il y a une aire d'accueil comme ça qui est assez drôle. On rentre en France, on sort en Suisse, dans l'Ain. Je veux dire, plus loin, c'est la Suisse. On ne peut pas aller plus loin. Et puis, si vous ne trouvez pas sur la frontière communale, à ce moment-là, vous allez chercher dans les zones grises, les zones industrielles, les zones commerciales. Si vous ne trouvez pas dans les zones commerciales ou les zones industrielles, à ce moment-là, vous chercherez dans les espaces de forêt. Et généralement, en suivant ces trois étapes, vous trouvez l'aire d'accueil assez facilement. Sur l'ensemble de mon recensement, j'ai dénombré 4 aires d'accueil en centre-ville. 4. Sur les 1358. Et je ne sais pas si vous imaginez peut-être le critère, le point commun de ces 4 aires d'accueil. Je ne sais pas si c'est un truc qui vous traverse l'esprit comme ça. Ben, leur point commun, c'est qu'elles sont toutes en face d'un commissariat. Donc c'est le préalable à l'acceptation d'une aire d'accueil en centre-ville. Alors à chaque fois que je suis dans une région, je monte un petit peu les aires. Alors dans le Gers, ça va très vite, il n'y a que 4 aires d'accueil, plus une aire de mon passage. Je ne vais pas vous faire les 4, je vous montre simplement celle de Auch. Elles ne sont pas spécialement très polluées dans le Gers. Vous avez des localisations qui sont plutôt correctes. Disons qu'elles sont assez isolées quand même, des tissus urbains. Là, on a l'aire d'accueil de Auch qui est donc au pied de ce petit aéroport. Auch, j'imagine que ce n'est pas Charles de Gaulle, qu'on n'a pas des avions qui passent tous les quarts d'heure ou toutes les deux minutes. Sachez aussi qu'au pied de Charles de Gaulle, il y a une aire d'accueil, hein, qui est celle de Tremblay en France. Et là, ils ont un avion toutes les 30 secondes. Voilà. Mais ici, en tout cas, bon, voilà, on peut imaginer que ça va plus ou moins. À Sagaudens, donc là on sort du département, on n'est pas très loin non plus, je vous montre ce futur site d'implantation qui est donc une usine Seveso qui produit du papier. Et on va tout autour de l'usine mettre des aires d'accueil, des terrains familiaux, etc. C'est le site qui a été choisi et retenu par le préfet et par le département et qui a été validé par le gouvernement, à ma grande surprise, puisque suite à mon ouvrage et à mon travail, le ministère de l'Intérieur s'est engagé. Enfin, en tout cas, publier une circulaire préconisant de ne pas construire des aires d'accueil dans ce genre de site. Mais c'est qu'une circulaire. Voilà. Et surtout, on préconise et on dit, bah, si vous construisez une aire d'accueil dans ce genre de site, vous n'aurez pas de financement de l'État pour le faire. Bon, on voit que là, les financements de l'État, a priori, sont passés. Et donc, après tout ce travail, eh bien, on arrive à 1358 que j'ai cartographié, qui sont disponibles, la cartographie est disponible sur le site visioncarto.net. Et vous voyez déjà un peu une géographie de la présence des voyageurs avec des zones beaucoup plus denses, hein, la région parisienne, l'ouest de la France. Aussi, je ne sais pas si vous remarquez, l'autoroute du Soleil, qui est bien visible, hein, dans le sud-est, le quart sud-est, qui montre simplement qu'on met les aires d'accueil tout au bord des autoroutes. Hein. Et donc, des présences historiques des voyageurs, plutôt dans le nord, voilà. Il y a certaines régions qui sont beaucoup plus fournies. Et aussi, ça montre, si on colle par exemple cette cartographie A et la cartographie, la densité de population, on se rend compte de cette diagonale du vide qui apparaît, avec beaucoup moins d'aires d'accueil dans les départements ruraux en France, qui s'explique par ce seuil des plus de 5000 habitants. Alors vous doutez bien que dans un département comme la Creuse, la Meuse, etc., on a généralement une aire d'accueil, voire deux. Et donc ça, si vous voulez, déjà, ça vous montre l'étendue aussi de l'interdiction, des interdictions de territoire pour les gens de voyage. Parce que quand on est voyageur, qu'on voyage, déjà toutes les zones blanches sont exclues, ça fait quand même beaucoup. Et ensuite, quand on est voyageur et qu'on veut habiter le territoire, généralement, toutes les zones où il y a des points, ce sont des villes donc où il y a des aires d'accueil, qui ont la possibilité d'interdire le reste de leur territoire une fois qu'elles ont créé l'aire d'accueil. Ce qui fait qu'ensuite, pour accéder à la propriété privée sur ces communes-là, ça devient très compliqué, voire quasiment impossible, sans rentrer dans l'illégalité, évidemment, puisque les voyageurs s'y installent quand même. À l'issue de ce travail également, on peut produire des cartes locales. Donc vous voyez qu'en région Occitanie, 46,6% des aires sont à proximité de polluants. Donc les taches vertes que vous avez, toutes les taches, en fait, ce sont des communes qui accueillent, de manière concrète. Hein. Et toutes celles qui sont en rouge, ce sont les aires d'accueil qui sont à proximité directe de polluants. Donc généralement, les équipements polluants qu'on retrouve à proximité des aires d'accueil, ce sont les décharges, les usines chimiques, les sites Seveso, les autoroutes, les stations d'épuration, les stands de tir, je compte ça comme de la nuisance, hein, stands de tir, les chenilles pour chiens. Alors, dans le sud-ouest, alors je cherchais tout à l'heure la ville dans laquelle j'avais vu ce cas-là, mais il est dans mon livre, mais je n'ai pas retrouvé. On avait une commune qui avait, par exemple, refusé l'installation d'un chenil pour chiens dans une zone qui était polluée, pour la santé des chiens, et qui, 2 ans après, a construit l'aire d'accueil à la même zone.
Montauban.
Montauban. D'accord, ok.
Montauban.
Bon, ben voilà, Montauban. Donc, c'est vous dire aussi, parfois, un peu des situations comme ça, cocasses, qu'on retrouve, on se dit vraiment, ce critère-là n'est pas du tout pris en compte pour les voyageurs.
Je voulais savoir si l'état de santé des gens du voyage qui sont accueillis dans ces aires dont on a vu qu'elles sont très polluées. Est-ce qu'une étude a été menée? Est-ce que ces personnes ont un accès à la santé, hôpitaux, médecins, etc.
Alors, un chiffre que je n'ai pas donné, mais l'espérance de vie des gens de voyage est de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Donc, en gros, nous, on meurt à 65 ans. Et vous voyez, on ne va pas profiter de la retraite longtemps. Hein. Donc 65 ans en général, c'est vrai que la moyenne c'est 65 ans, la moyenne d'espérance de vie. Et évidemment, il y a, je suppose, on peut y mettre l'hypothèse qu'il y a une corrélation entre les espaces de vie et l'espérance de vie. Même si ce n'est pas le seul et unique critère qui fait que... Mais il y a quand même potentiellement une corrélation. Et donc quand j'ai produit ces chiffres-là, l'idée c'était aussi d'inciter les personnes qui vont étudier donc, la santé publique à se saisir de ce phénomène. Et donc là, il y a une étude actuellement en cours de Santé publique France qui devrait paraître. On attend depuis 3 ans, mais qui devrait paraître un jour ou l'autre sur ces questions d'impact de la localisation sur la santé. Et sur l'accès à la santé, il y a des politiques publiques, encore une fois, spécifiques. Et là aussi, c'est intéressant, c'est que concrètement, vous savez, par exemple, la dernière fois, je suis allé à Bourges. Et à Bourges, il y a, je me rends compte que sur les accueils, je vois de la toxicomanie. Et donc, je demande aux travailleurs sociaux pourquoi il n'y a pas d'action concrète de prévention de la toxicomanie qui est déployée sur les aires d'accueil. Et on me dit, mais en fait, il y a une politique publique locale de prévention à la toxicomanie, mais quand on a demandé à ce qu'elle bénéficie aux voyageurs, on nous a dit c'est à vous de le faire, parce que c'est vous l'association de voyageurs. Et en fait c'est ça qui se passe, c'est qu'on demande aux associations de voyageurs de faire du spécifique pour les voyageurs. Et donc ces associations-là, elles sont complètement dépendées parce qu'elles ne peuvent pas faire l'éducation et la prévention et les papiers, et le RSA, et ci et ça, c'est pas possible. Donc l'accès à la santé, il est vraiment à revoir de fond en comble. Et puis par ailleurs, l'accès aux hôpitaux. On a certaines aires d'accueil qui aujourd'hui se développent à proximité d'hôpitaux pour ces raisons-là. Les 2 aires d'accueil de Paris, il faut, pour pouvoir y stationner, avoir un proche hospitalisé dans un hôpital de Paris. Bon, avec la particularité de la densité urbaine à Paris, qui fait que, voilà, on n'a pas d'aires d'accueil. Mais, et d'ailleurs, une des aires d'accueil est à proximité du CRA, du centre de rétention administrative. Donc, ouais, c'est drôle. Voilà, oui, effectivement, la santé est une question très importante, et c'est très dur de prouver les liens de causalité entre l'environnement et la santé. Regardez un épisode comme les algues vertes, le Mediator, le nombre d'années que ça prend l'amiante, le nombre d'années de morts qu'il faut pour qu'on arrive à une reconnaissance. Imaginez avec des populations voilà, qui sont marginalisées. C'est beaucoup plus long en termes de processus.
Papa se souvient de ce petit pays où la place n'est ni trop désagréable, ni surpeuplée, ni trop sale, avec des branchements qui fonctionnent. Alors, il conduit quelques heures pour y parvenir et découvre à l'entrée de magnifiques rochers. De ridicules pierres en réalité, des pierres de la honte qui poussent partout en France. Alors il faut se rendre à la mairie, demander à faire ouvrir la place, attendre des réponses qui parfois ne viennent pas, et d'autres fois forment d'habituelles rengaines. L'air est en période de fermeture administrative. L'air a été dégradé il y a 3 ans, depuis elle est fermée. On ne va pas ouvrir pour 4 caravanes, elle est 20 km plus loin. 20 km et l'air est ouverte. Ici, il paraît qu'il y a de la place. Mais d'entrée de jeu, le gardien tend le doigt et l'agite de gauche à droite, ou l'inverse. On vous a dit qu'il y a de la place, mais l'air est complète. Il y a des gens qui sont installés et ont dépassé leurs autorisations temporaires. Demandez-leur de partir, on ne sait jamais. Ou sinon, allez à 50 km au nord. Tu peux te faire balader longtemps comme ça. Parfois, le département n'a plus de place d'accueil disponible. Le territoire entier t'est alors interdit. Alors, quand tu trouves une place, c'est déjà bien. Tu t'installes. Le gardien arrive et normalement te fait signer des papiers. Une caution et un règlement intérieur. Comme un enfant, tu signes et tu t'engages à ne pas tout détruire, assassiner le gardien et voler du cuivre. Ayant peu de poules, les gardiens craignent désormais pour les installations métalliques. Je m'engage à ne pas voler, à ne pas détruire et à payer. Et si jamais je ne suis pas sage, en 2020 à Coutances, a été rajouté au règlement intérieur un paragraphe « Sanction » au pluriel, évidemment. L'accueil peut alors commencer. Et quel accueil !
Quand on regarde certains départements, je m'étais amusé à le faire dans le Calvados. J'ai comparé la différence de localisation entre les aires d'accueil les aires de camping-car, les campings municipaux et les aires d'accueil, toutes en zone industrielle, évidemment, et les aires de camping-car, campings municipaux, tous plus ou moins en centre-ville, au bord de la mer, dans des sites d'intérêt touristique. Et en fait, quand on s'intéresse à ces différents types d'équipements qui n'ont pas les mêmes vocations, une aire d'accueil, c'est fait pour vivre, un camping municipal, une aire de camping-car, évidemment, c'est fait pour le tourisme. Mais on se rend compte quand même qu'il y a différentes manières d'aborder l'intégration de l'habitat mobile, qu'il soit de loisirs ou pour habiter. Et que généralement, ces lieux-là sont quand même séparés en différentes cibles. C'est des aires d'accueil pour les gens du voyage. Il faut savoir que les campings municipaux, par exemple, dans leur majorité, n'acceptent pas les gens du voyage. Alors, jusque dans les années 90, dans les règlements intérieurs des campings municipaux, c'était écrit noir sur blanc, interdit aux gens du voyage. Il n'y avait pas de crainte à l'écrire. Et puis, la jurisprudence est passée par là, les associations ont fait des recours. Et donc, on a changé les règles et on a commencé à interdire les caravanes double essieux, qui étaient à l'époque les caravanes les plus utilisées par les gens du voyage, c'est-à-dire les caravanes avec 4 roues, concrètement. Pourquoi ? Raison technique. Un des secrets est de le garder des campings municipaux de France, hein, quand même. Donc, à chaque fois qu'on pose la question, embarrassé, on entend des réponses un peu gênées, etc. Mais quand on va sur le site des caravaniers et camping-caristes de France, ils écrivent noir sur blanc, si c'est interdit, c'est pour pas avoir de gens du voyage. Et si toutefois vous avez une caravane double essieu, et que vous n'êtes pas gens du voyage, écrivez-nous, on vous fera une carte. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une organisation aussi, qui n'est pas formelle, qui n'est pas de l'ordre de la loi, du décret, mais qui est de l'ordre de la pratique, qui font quand même que il y a quand même deux types de populations avec deux types d'usages et voilà, une séparation stricte. Ce que ça nous enseigne également, c'est que les aires de camping-car, notamment, nous enseignent qu'il est possible de créer des espaces d'habitat intégrés aux villes, d'habitat pour l'habitat léger, mais il y a d'autres équipements qui nous enseignent cela. Là, on voit de plus en plus se développer des villages pour tiny house. Donc la tiny house, qu'est-ce que c'est, hein ? C'est tiny house, c'est surtout pas une caravane. Si vous allez sur le site des tiny house, là, vous ne trouverez jamais le mot roulotte ou caravane. C'est surtout pas ça. Par contre, c'est le folklore tzigane, la liberté nomade. Et donc, on se rend compte que c'est appréhendé différemment, évidemment, par les pouvoirs locaux. Ils vont parfois avoir la possibilité de créer ces villages, et c'est des villages qui sont bien intégrés dans la ville. C'est-à-dire, c'est des terrains, en gros, de tiny house. Alors, on a l'exemple à Saint-Brieuc, qui est en plein centre-ville. On a vu là récemment Lyon qui propose des zones de tiny house pour les réfugiés ukrainiens, donc qui met ces tiny house en plein centre de Lyon quand même. Donc voilà, on a quand même la possibilité d'intégrer de l'habitat mobile dans les villes, mais bon, c'est pas évident pour les gens du voyage. Voilà, c'est plus compliqué.
C'était la première partie de la conférence de William Acker, Où sont les gens du voyage ? Donnée le 29 avril 2023 à la salle des fêtes de Seyssan, dans le Gers, dans le cadre du festival Welcome in Tsigani. Les textes lus sont extraits du livre de William Acker, Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d'accueil, publié aux éditions du Commun. Chapitre Le parking, pages 10 à 12. Chapitre L'air, page 75. Extrait de la playlist de William Acker. Vous avez entendu tout au long de cette première partie le sublime Tanza de Yorgi Lefleur, issu de l'album For Magno, chez Spring, dont le titre Valsa Django accompagne aussi ce générique. Prise de son, montage, mixage, bricolage et lecture de Flore pour les petits papiers sur Canal Sud 92.2 ou canalsud.net. Deuxième partie, À suivre.